3, chapitre 10. Tête à perruque. Le baron Schwartz était un homme dans la force de l'âge, énergique et robuste. Les gens de sa sorte commencent ordinairement par être très paisibles. Le flegme est une des qualités qu'on apporte de Gebwiller. Mais ce flegme est un outil. On le jette parfois quand est finie la campagne de travail. Chose singulière, ces prédestinés de la conquête sont doux et patients tant qu'ils sont maigres, aigus, avides. Le sang leur vient avec leur bon point dès qu'ils deviennent beaux joueurs et bons vivants. Si vous les voyez en colère, dites-vous bien que leur affaire est faite. En sa vie, monsieur le baron Schwartz avait eu peu d'occasion de recourir à la violence. Il n'était pas méchant. Et cependant, ses rares colères s'étaient passées sur plus faibles que lui, sauf un ou deux cas où il avait payé de sa personne. On savait cela dans le monde où il vivait, et son courage avait encore été pour lui une bonne affaire. Ceux qui le connaissaient bien avaient pensé de tout temps que, si on l'attaquait jamais dans l'amour qu'il portait à sa femme, M. Schwartz deviendrait un homme terrible. Depuis quelques jours, M. le baron Schwartz vivait de fièvre. Ses craintes comme ses espoirs participaient à cet état nouveau pour lui, car la fièvre dont nous parlons n'était plus cette simple accélération du pouls qui accompagne le travail quotidien du million et qui tue lentement, comme l'opium ou l'absinthe. C'était une fièvre profonde, douloureuse, capable de détraquer cet instrument de précision qui était son cerveau, capable de l'arracher au calcul pour le lancer dans les aventures. Il en était à faire fond sur ses romans usés jusqu'à la corde, et qui se présentaient néanmoins dans des conditions originales de vraisemblance et de réussite. L'existence d'un petit-fils de Louis XVI. Monsieur Lecoq le tenait comme cette main de fer magie des modernes industries, qui emprisonnait les voleurs essayant de forcer les fameuses caisses à secret de la maison Berthier et compagnie. Monsieur Schwartz avait violé la fortune, et à un certain moment, quand le triomphe n'était même plus douteux, ce démoniaque mécanisme avait joué, Monsieur Lecoq. Dans l'affaire du prétendu fils de Louis XVI, Monsieur Schwartz aux abois cherchait un refuge, une parade, quelque chose comme ce fameux brassard ciselé que les pillards de la caisse Mancel avaient laissé entre les griffes de la mécanique la nuit du 14 juin 1825. Il n'avait rien volé, mais souvenons-nous de la navrante conviction qui terrassa André Ménotte innocent au lendemain de ce crime. La main qui avait serré jadis la gorge d'André Ménotte était désormais autour du cou de Monsieur Schwartz, la même main. André n'était en ce temps-là qu'un pauvre enfant amoureux, et ce furent les précautions même prises pour sauvegarder Julie, son trésor adoré, qui couronnèrent ce fatal monceau d'apparence sous lequel la justice ne sut point découvrir la vérité cachée. Monsieur Schwartz était au contraire un habile homme. Les ressources de toutes sortes abondaient autour de lui, et sa fortune lui faisait une armure. Cependant, il suffoquait sous la pression de cette main qui mesurait la puissance d'étranglement à la force de la victime. Il râlait déjà parce que, pour compléter l'étonnante parité de situation, un grand amour aussi pesait sur lui. Une femme était là qui paralysait sa défense, une femme adorée, la même femme. Je n'ai pas dit le même amour. La passion engourdie dans le bonheur devient féroce à l'heure où l'on souffre. Au milieu de cette immense bataille qui s'agitait autour de M. Schwartz, sa grande affaire était sa femme. Sa femme le gênait, le garrottait, l'absorbait. Il l'aimait avec fureur depuis qu'elle n'était plus à lui. Il l'aimait à cet horrible point qu'il avait songé un instant à la broyer sous cet arrêt de la cour de Caen qui pesait toujours sur sa tête. Il l'aimait jusqu'à pleurer, lui, le baron Schwartz, quand il était tout seul et entouré de terreur dans son cabinet où tant d'or avait ruisselé. Les menaces, les accusations à certains moments se dressaient autour de lui comme un cercle infranchissable. Il était bigame. Il était, de par un mensonge que soudait fatalement un atome de vérité, le caissier, le complice d'une association de bandits. Ces années de labeur intelligent, propre dans la mesure des candeurs industrielles, rigoureusement irréprochables selon la morale d'or, pouvaient être transformées, comme le lait de nos fermiers parisiens, pur aussi devant la clémence des inspecteurs, tourne et se corrompt au contact empoisonné d'un acide, transformé en 5 lustres de méfaits, couronnés par un succès impudent. Une fois attaché le grelot qui teinte le glas de la confiance publique, malheur aux triomphants d'hier. Le baron Schwartz avait vu bien des exécutions de ce genre. Il savait son époque, il connaissait son paré d'argent. Aucune illusion ne fardait pour lui le danger, et cependant il eût passé franc, tête haute, brandissant son crédit comme une massue, si la femme qu'il aimait lui barrait son chemin. Il se perdait pour la sauver. Il faisait comme André Ménotte. Au moment de la lutte, ses bras, au lieu de le défendre, serraient convulsivement son trésor. Il se dévouait ardemment et à la fois de parti pris. Non pas cependant comme André à la femme qu'il aimait, mais à l'amour qu'il avait pour la femme. Il se déterminait à fuir, mais avec elle. Il faisait une folie. Il se passait un monstrueux caprice. Il perdait, au jeu de sa passion conjugale, de quoi acheter tout l'amour de Paris. Tel était l'homme qui sans doute avait entendu les dernières paroles de Julie et qui montrait en l'entrebâillement de la porte sa tête ravagée derrière l'estropié sans défense et sans défiance. Julie n'eut pas un instant de doute au sujet de ce qui allait se passer. Elle vit le meurtre commis distinctement et comme si le couteau que le banquier tenait à la main eût été planté déjà entre les deux épaules d'André Ménotte. Elle connaissait admirablement cet homme, bourreau mais victime. Elle savait ce qu'il y avait en lui de bon et de mauvais. Ici, le mauvais et le bon ne devaient point se combattre, mais bien se réunir et s'additionner pour frapper un de ces coups qui font disparaître l'arme entière dans la blessure. Elle voulut crier, mais sa voix resta dans sa gorge. Elle voulut s'élancer, elle crut bondir, elle était paralysée. Trois pas de vice-là, il n'eut pas le temps de se retourner. Ce fut en effet rapide plus que l'éclair, et le banquier n'hésita pas la centième partie d'une seconde. Et nous tardons cependant, quand il ne faudrait qu'un mot, le plus vif de tous, pour exprimer une action qui fut absolument instantanée. Nous tardons parce que notre barque de compteur frôle ici un dangereux écueil. Un couteau dans la main de M. Schwartz, c'était déjà un excès. Quoique le couteau fût une de ces armes curieuses jetées pêle-mêle en quantité sur les étagères, et que ses doigts crispés se fussent noués autour du manche en passant, d'instinct, et comme on ramasse une pierre pour écraser une couleuvre. Ce n'est pas cela qui nous arrête, parlant trop, au bord du fossé qu'il faut franchir. Le couteau ne servit à rien. Il y a des accidents d'un comique offensant. Le baron Schwartz se voulait tuer, ceci est certain. Le feu rouge de ses yeux le disait, la grimace de sa bouche le criait. Le meurtre était dans la livide pâleur de ses lèvres et jusqu'à dans la caresse de ses doigts, voluptueusement cordés autour du poignard. Il était ivre, il était tigre, et songeait qu'il avait entrevu déjà l'idée du suicide. Mais étant même admise l'ivresse de sang et la férocité montant au cerveau comme un transport, un banquier d'habitude paisible ne frappe pas comme un expert assassin. Il peut y avoir, jusque dans le crime, des maladresses et des enfantillages. On fait mieux la seconde fois. Ce qui se présentait à M. Schwartz, c'était la tête poilue de cette misérable créature, trois pattes, vautrée sur le tapis et dont il ne voyait point le visage. Ses deux mains avides, et il grognait de plaisir enragé comme une bête affamée qui mange, se plongèrent dans cette forêt de crins. Et sans quitter le couteau, tirèrent à lui avec une extravagante violence. Il voulait renverser avant d'égorger et fouler aux pieds le corps mort à la face de cette femme qui venait de dire tant de fois « Je t'aime !» La crinière vint. Voilà ce qui nous faisait peur. La perruque, pour employer dans notre confession le plus humiliant des mots, resta avec la barbe postiche entre les mains frémissantes de M. Schwartz, qui recula d'un grand pas et demeura bouche béante. Trois pattes s'était retourné, calme comme un homme sans peur, mais d'un mouvement viril et vif. C'était M. Bruno, sans son masque de vulgaire bonhomie. C'était un visage jeune encore et remarquablement beau, couronné par une chevelure de neige. M. Schwartz se balbutia. « L'homme de Jersey ?» Puis il regarda l'objet grotesque qui pendait à ses mains et où le couteau se perdait. Ses yeux se ternirent, son cou s'allongea en avant, et il sembla que sa pensée s'éteignait. Julie avait poussé un long cri, un flux de vie l'inondait. La poitrine du banquier rendit un gémissement rauque parce qu'elle se prit à aller vers André, les mains tendues et balbutiant des sons inarticulés, comme le langage des jeunes mères qui s'enivrent de caresses. Ce n'était ni cruauté ni audace. Elle ne savait plus que M. Schwartz était là. Elle jeta ses deux bras autour du cou d'André. Elle se serra tout contre lui, si gracieuse et si belle que le malheureux spectateur de cette scène eut deux larmes de sang. Il chancelait. Il avait le couteau. Un sourire d'agonisant essaya de naître sur son visage vieilli de 10 années en 1 minute. « Mon mari, mon mari, mon mari !» dit par 3 fois Julie qui exhalait son âme en un baiser. « Son mari !» répéta M. Schwartz. Il se redressa de toute sa hauteur. Un rire convulsif, aigu et court le secoua de la tête aux pieds. Puis il tomba comme une masse et ne bougea plus. Le bruit de sa chute éveilla Julie. Dans le silence morne qui suivit, les lointains accents de l'orchestre parlèrent. Pour la 3e fois, le cri du joueur d'orgue monta du dehors. « Lanterne magique, pièce curieuse !» Le banquier gisait en travers de la porte. André et Julie restaient à se regarder. Julie défaillante et prise de terreur, André froid. Il rompit le premier le silence. « L'appartement de monsieur le baron Schwartz, dit-il avec un calme qui arrêta les battements du cœur de Julie, communique avec ses bureaux, je le sais. Je vous prie de m'enseigner le chemin de la caisse. » « Je vous y conduirai, » s'écria-t-elle sans hésitation ni soupçon. « Non, » répondit-il, « je vous demande le chemin et la clé, je suis en retard. » Elle voulut répliquer. Il l'interrompit, ordonnant « La clé, je vous prie, madame. » Julie enjamba le corps de M. Schwartz pour entrer dans l'appartement de ce dernier. « Il est vengé, » pensa-t-elle du fond de sa détresse en jetant sur lui un regard de tardif pitié. Quand elle revint avec la clé, il n'y avait plus de trois pattes. André était debout et ferme sur ses pieds. Le regard suppliant de Julie implorait une parole. Il prit la clé et reçut les indications nécessaires, sans mot dire. Julie pleurait en parlant. Dès qu'elle eut achevé, il lui tendit la main de lui-même, et comme elle voulut la baiser, il la repoussa. « Adieu, dit-il, nous ne le verrons plus. Je vous ai pardonné. Pardonnez sincèrement. Secourez votre mari comme c'est votre devoir. » Julie se laissa glisser à deux genoux et s'éloigna, sans détourner la tête. Julie s'accroupit comme une pauvre folle, écoutant le bruit déjà lointain de ses pas. Son cœur était broyé et sa tête vide. Est-il besoin d'exprimer qu'elle ne se demanda point pourquoi André prenait seul le chemin de la caisse? À supposer même que son cerveau garda en ce moment la faculté de formuler une pensée qui nous pointerait directement à son malheur, aucun doute ne serait né, aucun soupçon vulgaire. À cette heure de la punition, André pour elle était grave comme un juge. Il n'y avait rien en elle qu'un respect immense, religieux, docile. Précipiter les sommets de son espoir, condamner à l'heure même où sa passion avait rêvé je ne sais quel dénouement triomphant et radieux à des difficultés insolubles. Condamner en dernière instance, cette fois, sans recours ni appel, Julie ne se révoltait point. Il avait droit, tel était le cri de son absolu repentir. Il était juste. Ce qui l'étonnait, c'était l'extravagance de son rêve. Ses remords ameutés étouffaient violemment cet espoir qui tout à l'heure éblouissait sa pensée. André avait dit « Secourez votre mari !» Elle n'eut pas d'autre soin. Elle alla jusqu'au baron et souleva sa tête qu'elle mit sur ses genoux. C'était son mari. Contre la double consécration de la religion et de la loi, elle se fut peut-être révoltée. Mais André l'avait dit, c'était son mari. André avait droit. Il était le seul magistrat et le seul prêtre. Elle n'avait plus de larmes. Elle regardait cette tête blonde du père de sa fille sans haine et sans amour. Quand il rouvrait les yeux, elle essaya de lui sourire. C'était un coup de massue qui avait écrasé ce malheureux homme. En la voyant sourire, il crut rêver. Elle lui dit « Le moyen de vous venger le voici. André Ménotte et Julie Ménotte, qui étaient sa femme, sont deux condamnés. Dénoncez-les à la justice. » Elle était assise par terre avec sa merveilleuse beauté. On voit de ces groupes après les bals de l'opéra dans la lassitude de l'orgie. Justement, l'orchestre s'en donnait à cœur joie, c'était le beau moment de la fête. Le baron, affaissé sur le tapis, l'avait écouté avec une attention stupide. Il cacha son visage dans les plis soyeux de la robe comme font les enfants jouant avec leur mère, et ils restèrent ainsi. Le rez-de-chaussée de l'hôtel Schwartz, auquel on arrivait par un perron de 12 marches, communiquait de plein pied avec l'entresol des bâtiments accessoires donnant sur la rue. Un escalier privé conduisait les appartements du baron à la galerie qui joignait les bureaux à l'hôtel. André Ménotte descendit les premières marches de cet escalier d'un pas ferme et rapide. Mais ici, personne n'était témoin. Avant d'atteindre la galerie, il s'arrêta, comme s'il eut besoin de reprendre haleine à mi-chemin d'une montagne escarpée. Une de ses mains saisit la rampe, tandis que l'autre étreignit son cœur dont les battements le blessaient. Un long soupir souleva sa poitrine. Ce fut tout. En bas de l'escalier, deux hommes attendaient. La lampe qui pendait au plafond de l'étroit vestibule éclairait leurs visages graves mais inquiets. L'un était M. Schwartz, ancien commissaire de police à Caen, l'autre M. le conseiller Roland. Tous deux tressaillirent à la vue d'André Ménotte qui descendait les marches tête haute. Tous deux l'avaient reconnu du premier coup d'œil. Il ne prononça point le mot d'ordre annoncé. « Monsieur, lui dit le conseiller Roland qui était un homme d'énergie, nous avons cédé à des sollicitations dont le caractère nous a frappés. Je m'attendais pour ma part à quelque chose d'étrange où vous devriez être mêlé. Mais je ne m'attendais pas à vous voir. Nous sommes fonctionnaires. » « Vous êtes gens d'honneur, » interrompit André. Votre conscience a des doutes, car celle qu'on nomme à présent la baronne Schwartz est libre, et vos deux fils, messieurs, ont fait partie de cette maison qui est la sienne. « J'affirme, » commença M. Roland. André l'arrêta d'un geste. « Vous êtes gens d'honneur, » répéta-t-il, Il me plaît d'être encore une fois entre vos mains. J'ai bien souffert pour attendre l'heure qui sonna à l'horloge de la justice divine. Vous ne pouvez rien pour moi. Je n'attends de vous qu'un témoignage muet, témoignage qui n'ira point devant un tribunal, car aucun tribunal présidé par un homme ne me verra jamais vivant. J'ai parlé de vos consciences. Nous voici trois consciences. C'est aussi un tribunal. Suivez-moi, écoutez, voyez et jugez.